Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour en lien avec le séisme au Maroc. Interview pour annoncer la deuxième édition du festival Aux Parleuses. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Un reportage à la découverte du festival photo de la Gacilly. Et puis recommandation, le nouveau journal de Rennes et sa métropole. Bienvenue dans l'Arène. Allez, comme chaque jour, on commence avec l'info du jour, le séisme survenu samedi soir au Maroc, qui a fait près de 2500 morts et tout autant de blessés. L'épicentre était situé dans une province montagneuse qui s'appelle Al-Aouz, au sud de Marrakech. Si je vous en parle, c'est que la catastrophe trouve un écho ici, à Rennes, avec d'abord la protection civile d'Ille-et-Vilaine, qui exprime sa solidarité envers les victimes et lance un appel aux dons. La protection civile, on rappelle que c'est une asso dont les 32 000 bénévoles sur le territoire national viennent en lien avec les autorités publiques pour porter secours en cas de crise, notamment à l'étranger. Les premiers bénévoles, ils sont arrivés au Maroc ce lundi après un temps d'évaluation des besoins côté marocain. On le redit, la France ne fait pas pour le moment partie des pays, ils sont quatre, qui ont officiellement obtenu le feu vert de la part des autorités marocaines pour envoyer des secours sur place. Pour faire un don à la protection civile, qui a notamment donc une antenne en Ille-et-Vilaine, si vos moyens le permettent, évidemment, ça se passe sur don.protection-civile.org. Et d'autres associations bretonnes se mobilisent au surlendemain du tremblement de terre. À Rennes, citons Armor, une association communautaire qui a ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme Litchi. Objectif, acheter des produits d'hygiène pharmaceutique, mais aussi des couvertures et des vêtements pour les emmener idéalement sur place. L'association Mosaïque Bretagne-Maroc organise quant à elle une soirée caritative. Au menu, un couscous solidaire. Ça aura lieu vendredi 15 septembre, à partir de 19h à la Maison Verte dans le quartier Villejean. Tarif 20 euros. Et avec les sommes récoltées, un ou deux villages seront ciblés par l'association pour apporter un soutien financier. Pour plus d'infos, il y a le numéro 06 66 04 70 03. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on passe à une interview. Hélène Allard et Charline Biro-Souchet, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Je vous présente, vous faites partie de l'équipe qui organise Aux Parleuses, festival podcast et féminisme qui revient pour une deuxième édition à Rennes. Rendez-vous pour y participer à l'Hôtel Pasteur samedi 16 septembre de 10h à 20h. On redit peut-être un mot sur la première édition qui s'était déroulée en octobre 2022. C'était déjà à l'Hôtel Pasteur. Quel public s'était déplacé, Hélène?
Du coup, on faisait toutes les deux partie déjà de l'équipe bénévole de la première édition d'Hôtel Pasteur et on a eu à peu près 200 visiteurs. Alors c'est vrai que c'était une première, donc dans l'installation, on ne savait pas forcément trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, il y avait déjà des ateliers de proposer qui ont été très vite pris d'assaut et au final complet toute la journée. Donc ça, c'était une très bonne surprise et on était très contents. Et dans le type de visiteurs, c'est vraiment deux types de profils. T'as ceux qui étaient en cours d'un projet de podcast ou qui sont déjà baignés dans l'univers et du coup qui venaient échanger, qui venaient reprendre des infos et se former pour passer un peu aux étapes d'après. Et ceux juste curieux, un peu fans.
Plutôt auditeurs, auditrices.
Voilà, complètement. Qui connaissent le format, qui l'apprécient et qui sont demandeurs de plus d'informations, de plus de sujets.
Ouais, peut-être en complément, le public, c'était aussi principalement un public quand même assez militant aussi au-delà de la passion du podcast. Je pense aussi la particularité de notre festival, c'est des gens assez engagés sur les questions de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et l'autre surprise de l'année dernière, quand même, c'est qu'on avait eu beaucoup de gens qui n'étaient pas de Rennes ou même de Bretagne pour un petit festival dont c'était la première édition.
C'est vrai.
Des gens qui étaient descendus de Paris, qui étaient montés d'autres villes. Donc ça, c'était aussi une bonne surprise de l'année dernière.
Peut-être parce qu'on retrouve peu ce format ailleurs en France, d'avoir un festival vraiment ciblé podcast et féminisme. C'est une idée assez nouvelle.
Oui. Ça, je pense qu'il y a d'autres. Enfin, c'est vrai que voilà, je crois qu'il y en a à Paris, il y a Bordeaux, il y a quelques villes qui ont émergé ce type d'événement. Mais c'est sûr que dans la région, je pense qu'on est dans les précurseurs. Donc l'engouement était au rendez-vous.
Et l'événement revient pour une deuxième édition cette année. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe qui organise ce festival ? Vous, toutes les deux, vous êtes plutôt dans le champ de la communication, donc plutôt auditrice que créatrice de podcast. On retrouve un peu les deux profils chez les organisateurs, organisatrices ?
Oui, à l'origine de l'initiative, donc c'est Aminata et Suzanne qui, elles, sont créatrices de podcast. C'est vraiment elles qui ont porté le projet et lancé l'idée et trouvé tous les partenaires et qui nous ont réunis autour du festival. Et après, dans l'équipe, on va dire un petit noyau dur de 6 personnes. C'est vraiment, les profils sont variés. Et après, on est environ, cette année, du coup, l'appel aux bénévoles aussi a très bien fonctionné. On est une cinquantaine, donc on est ravis.
Le podcast, peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas habitués à ce format d'écoute, le podcast, donc l'écoute de programmes audio en ligne, il s'est développé en même temps qu'Internet. Depuis les années 2010 et plus fortement encore depuis 5 ans environ, je dirais, il y a quand même une effervescence créative dans ce milieu du podcast, avec des modèles économiques voilà, qui se sont montés progressivement, et puis une grande palette de ce qu'on y trouve en termes de sujets et parfois, je trouve, de qualité. Il y a plein de choses qui s'y font sur le fond, sur la forme. L'utilisation du podcast pour aborder des sujet intime et de lutte contre le féminisme, c'est finalement assez récent, on est d'accord là-dessus.
Enfin, peut-être comme pas mal de personnes, et je sais que Suzanne, donc l'une des cofondatrices du festival, aime bien le rappeler. Moi, ça a vraiment été avec le Covid, enfin la crise Covid, je pense qu'il y avait eu un engouement qui d'ailleurs se démontre par les chiffres. Hein. Le podcast a pris une grosse ampleur à ce moment-là, et notamment aussi tous les podcasts liés au féminisme, pour faire entendre une parole justement qu'on n'entendait pas. Donc je pense qu'il y a effectivement pour moi une rupture un peu à cette période-là en tant qu'auditrice, qui se démontre aussi dans les statistiques pour pas mal de personnes, je pense, en France.
Sur toutes les choses qui sont créées, si on parle podcast et féminisme, il y a des choses à la fois autoproduites ou portées par des sociétés de production. On peut en citer quelques-unes. On retrouvera notamment une personne qui travaille chez Louis Media et Slate Audio lors du festival Haut Parleuse. Évidemment, on doit citer Arte Radio qui a été assez précurseur, notamment avec le podcast À soi de Charlotte Bien-Aimée.
Le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
Maintenant, il faut des mots.
Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
Un podcast À soi, par Charlotte Bien-Aimée.
Mais il y a aussi Nouvelles Écoutes ou encore Binge Audio et son fameux Les couilles sur la table pour parler des masculinités.
Les couilles sur la table, épisode 75.
Parler féminisme dans un podcast, selon l'angle, ça permet d'aborder un tas de sujets, les corps, la sexualité, la vie professionnelle, la maternité et la parentalité, mais aussi l'intersectionnalité. Vous y trouvez quoi dans les podcasts que vous ne trouvez soit pas du tout, soit pas assez à la radio, puisque vous êtes invité à la radio, dites-le.
Ben, je sais pas, je pense que à la fois les sujets complètement, j'ai l'impression que le podcast a un peu cassé des tabous et on peut vraiment parler de tout et il y a un format assez intimiste et le type de profil dans les échanges et les interviews, moi c'est vrai que j'écoute quand même beaucoup d'interviews dans le type de format, c'est vrai que dans le podcast aussi il y a de la création, il y a du roman, de l'histoire, de l'interview ou juste du partage d'expérience. Donc en fait, on peut tout y trouver sur des formats courts, des formats longs. C'est à la carte, quand on veut, on peut mettre pause. Enfin voilà, je trouve qu'à la fois les sujets, en ce qui me concerne, je ne sais pas, dans les premiers, c'était l'entrepreneuriat et la maternité. Et voilà, il y avait des sujets qu'on entendait nulle part, mais vraiment nulle part ailleurs. Je pense que même en fouillant, ça devait être une infime minorité pour vraiment toucher la réalité des gens sans tabou et aller dans de l'intime.
On y trouve beaucoup plus du témoignage et de l'interview, je trouve, que du reportage comme on pourrait trouver dans des formats radio. Est-ce que vous avez une recommandation de podcast qui soit classique ou plus récent et qui vous a soit éclairé ou qui vous tient et que vous continuez à écouter aujourd'hui et que vous souhaitez recommander aux auditeurs ?
Charline, je vais parler d'un podcast que j'écoute en ce moment. J'écoute pas mal Les Grandes Traversées, qui a un format long, donc c'est 6 épisodes d'1 heure sur une grande personnalité Et donc je recommande celui sur Angela Davis, qui est une personnalité qui n'est pas si connue que ça en France. Et j'aime bien ce format un peu série, qui est un format très très long, où on rentre dans le détail, où il y a à la fois de la fiction, du reportage, de l'interview. Je trouve que c'est très complet. Et si on aime le podcast, du coup, il y a pas mal de personnalités, notamment féministes. En ce moment, j'écoute Joseph Kessel, c'est un peu moins féministe, mais c'est intéressant aussi. Mais voilà, le format, j'aime beaucoup, format long comme ça, c'est assez particulier.
Les Grandes Traversées, c'est une émission signée France Culture et qui est diffusée les étés. Plus de 100 portraits de personnalités historiques ont ainsi été réalisés et sont à retrouver en ligne et en podcast, donc sur radiofrance.fr. Et Hélène ?
Et bah dans les podcasts féministes, moi, le premier que j'ai écouté et que j'écoute toujours et qui fait un peu partie voilà, des piliers, c'est La Poudre, avec Lorraine Bastide. Voilà, il y a pareil une variété d'interlocutrices vraiment de tout milieu et qui partagent voilà, leurs ressentis, leurs épreuves, les barrières qu'elles ont pu ou les déclics et, voilà, et les projets. Du coup, c'est intéressant.
Je le dis au détour d'une phrase, moi je conseillerais, alors qui n'est pas ciblée féminisme, mais où on peut notamment y retrouver des paroles d'autrices, le podcast Bookmakers, qui est toujours en cours de réalisation sur Arte Radio, avec notamment cet épisode en compagnie d'Alice Zeniter, qui parle de son choix de ne pas avoir d'enfants, notamment ça peut rejoindre des sujets féministes, et que je recommande aux auditeurs. On arrive à la programmation de Haut-Parleuse 2e édition, un festival pour oser l'ouvrir, c'est le slogan. Ça se passe samedi 16 septembre de 10h à 20h à l'Hôtel Pasteur, ici à Rennes. Il y aura 5 espaces aux noms assez évocateurs, notamment Lorraine Bastide ou encore Rokhaya Diallo. Le public va pouvoir y écouter des interlocuteurs, des intervenants, mais aussi apprendre à faire tout un tas de choses. Pour apprendre, il y aura des tables rondes, des rencontres, des échanges avec les podcasteurs et podcasteuses. J'ai noté 6 rencontres sous ces formats-là. Et c'est là où je dis qu'on a un autre invité qui est en ligne avec nous, Cédric Rostin. Bonjour.
Bonjour.
Cédric, vous êtes le créateur de Papatriarca, qui est un podcast de parentalité engagée. Il a été lancé en 2020, alors on doit vous demander si c'était là aussi au moment de la crise sanitaire qu'il y a eu un changement de cap pour vous dans votre vie professionnelle.
Alors il y avait un changement de cap en effet à ce moment-là qui n'était pas en lien avec la crise sanitaire, mais du coup la crise sanitaire a créé des petites modifications. En fait j'avais quitté mon entreprise et je lançais le podcast un peu pour déconner. En tout cas pour militer et sans objectifs spéciaux. Et par contre, en effet, le confinement a fait que j'ai été très écouté à ce moment-là.
On vous retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, et puis sur votre site internet à vous. Est-ce que vous avez une idée justement du nombre d'écoutes? Comme l'écoute est un peu fractionnée entre différentes plateformes, vous savez combien d'auditeurs vous suivent, sont abonnés et vous suivent régulièrement?
Ah oui, bien sûr, on a accès, grâce à mon hébergeur Acast, j'ai accès à toutes ces statistiques sans problème. C'est à environ 100 000 écoutes par mois, Papatriarca, donc ça permet de passer pas mal de messages.
On précise qu'avant de vous lancer dans le podcast, vous travaillez dans un autre domaine, plutôt dans le management. Donc vous arrivez dans ce champ du podcast, pourquoi avoir choisi ce format-là et pas un autre pour dire ce que vous aviez à dire et sur un sujet qui est assez militant, à savoir la paternité et la parentalité?
Je vais tomber dans le cliché, mais c'est une idée de ma compagne, en fait.
Heureusement qu'elles sont là.
Il y a toujours une femme.
Exactement, mais tout à fait. C'est une idée de ma compagne qui, en fait, si vous voulez, quand je suis devenu papa, j'ai fait plein de choix de positionnement, le congé parental, me former sur l'allaitement, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de sujets. Et du coup, je me suis retrouvé à méditer aussi par rapport aux non-violences éducatives, notamment. Et en fait, en m'écoutant parler à mes amis, à mes collègues et argumenter, elle m'a dit: mais chérie, il faut que tu fasses un podcast. Et comme j'adore discuter, j'ai dit allez, pourquoi pas, on va tenter ça. Mais vraiment, c'était comme beaucoup, hein, c'était pas du tout prévu que ça devienne une activité.
Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes donc podcasteur, vous êtes aussi auteur, conférencier sur ces questions toujours de paternité, de parentalité. Et dans Papatriarca, vous proposez différents formats dont la longueur peut beaucoup varier, et puis aussi le genre, puisque parfois on peut rencontrer donc avec vous des professionnels qui sont spécialistes de ces questions, à la fois de parentalité, mais aussi de lutte contre les violences éducatives. Et à d'autres moments, on retrouve des paroles plus intimes sous forme de témoignages. Et parfois, vous-même, vous vous livrez sur votre paternité à vous.
Oui, complètement. Je pense que c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, avec l'écoute des personnes qui peuvent écouter grâce à l'écoute de l'auditoire. C'est marrant d'écouter son auditoire et de la communauté aussi sur les réseaux sociaux. C'est que c'est sympa, je pense, vraiment de réussir à mêler l'expertise, mais qui peut être parfois très théorique, avec la réalité du terrain parental, on va dire. Et aussi mes propres difficultés, parce que je pense que c'est important de rappeler que voilà, on est tous en découverte sur ces sujets-là, que quand on veut en plus chercher à évoluer, ça demande quand même beaucoup de ressources qui sont pas forcément toujours disponibles, et surtout ça demande, quand on parle de bienveillance, souvent ce qu'on oublie, c'est d'être bienveillant d'abord envers soi-même. Donc voilà, l'idée c'est de ramener tout ça avec en effet différents formats. Et de montrer que ben on est un petit peu tous et toutes sur un chemin pour essayer d'apporter le mieux à nos enfants malgré certains sujets de société comme en effet le patriarcat, le sexisme et bien entendu l'adultisme et les violences éducatives ordinaires.
Pour donner un exemple, sur un des derniers entretiens long format, donc sur une durée d'une heure, vous avez reçu la psychothérapeute Brigitte Auriol pour parler notamment d'éducation et puis d'héritage familial, de ce qu'on trimballe avec nous et sur lequel on peut ensuite réfléchir. Parfois, une fois qu'on devient un parent, pour essayer de ne pas transmettre certaines choses. On vous retrouvera, Cédric Rostin, lors du festival Haut-Parleuse à Rennes, pour parler de votre podcast à vous, à l'occasion d'une table ronde qui se déroule à 11h sur le thème des nouveaux récits de parentalité. On retrouvera notamment aussi Sophie Baconin du 4e trimestre, podcast assez connu chez les gens qui s'apprêtent à avoir des enfants. Vous serez aussi présent dans le salon de rencontre et pour dédicace là à 14h30. Est-ce qu'en créant un podcast, vous assumez d'être une forme de modèle? Parce que justement, pour qu'on puisse voir plus de pères être investis dans la parentalité, on a besoin d'entendre ces voix-là, des voix comme la vôtre. Ou est-ce que c'est lourd à porter?
C'est un chemin compliqué que vous m'offrez avec cette question. Parce que on a tendance quand même, si vous voulez, faut avoir conscience que dès qu'un homme prend la parole ou dès qu'un homme fait un truc en parentalité, on est vite un héros. Ça, c'est un problème. Donc, c'est à la fois, il faut en effet faire bouger les lignes, mais à la fois, je pense qu'il faut toujours rappeler que si ces lignes peuvent bouger, c'est avant tout grâce au travail de femmes, grâce au travail de femmes engagées. Ça, c'est le premier point. Et c'est aussi ce qui amène des formats plus intimistes, comme que vous avez évoqué, juste pour rappeler que en fait, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'idéalisation, et on galère comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de rappeler, je pense.
On revient au programme du festival Haut-Parleuse avec Hélène Allard et Charline Biro-Souchet. En plus donc des rencontres, des tables rondes, il y aura toute une partie atelier pour justement, pourquoi pas, apprendre à faire et puis déjà apprendre à utiliser sa voix, même si on n'est pas créateur de podcast. J'ai noté 6 ateliers tout au long de la journée en présentiel, donc samedi prochain, et la nouveauté des masterclass digitales, aussi des formes d'ateliers, mais qui seront organisées en ligne, c'est ça ?
Oui, et qui commence dès aujourd'hui, c'est la première, avec Élise Bultez de Prenons un Café, qui elle, est une Lilloise, donc qui nous a rejoint dans le collectif pour l'organisation des masterclass. Charline ici présente en a une également. Donc voyez, on a 4, il y en a une par jour. Donc elles sont, c'est toujours possible de s'inscrire et de participer au format en ligne. En fait, voilà, on avait eu quelques petites frustrations en disant que tout le monde, comme Charline l'avait mentionné, ne pouvait pas forcément venir ou se déplacer. Donc c'était une manière de rendre accessibles les contenus et l'accès au festival à tous et toutes. Et après, sur place, donc différents ateliers, dont certains sont déjà également complets, mais c'est possible toujours de contacter pour être sur liste d'attente. Et Charline, qui est vraiment sur tous les fronts, a également un atelier en physique samedi.
Qui débutera à 13h30, il sera question d'apprendre à définir sa ligne éditoriale, qui est sans doute la première chose à se demander quand on lance, que ce soit un podcast, mais sur d'autres types de projets, ça marche aussi.
Ouais, complètement, c'était intéressant. L'année dernière, c'était un atelier où j'avais eu 12 participants et participantes, dont 10 avaient déjà commencé un podcast ou avaient un projet de podcast. Et tout le monde s'était précipité à faire des interviews, rencontrer des gens, acheter un micro, tester la technique. Et sur les 10 personnes, s'étaient posé la question de quoi je parle, comment j'en parle, à qui j'en parle, et du coup, qu'est-ce que je fais en fait. Donc c'est aussi recentrer ce truc-là, redonner des clés de méthodologie, parce que moi c'est aussi mon métier au-delà du podcast, donc j'avais vu que c'était assez essentiel, donc c'est pour ça qu'on le reconduit cette année, parce que les participantes l'avaient bien apprécié.
Je donne tout de suite le site internet pour retrouver la programmation et pourquoi pas s'inscrire, puisque les inscriptions sont nécessaires pour les ateliers. Ce site internet c'est hautparleuse.fr, mais vous êtes aussi également présente sur les réseaux sociaux, notamment avec un compte Instagram et une page Facebook. Haut-parleuse en vrac, là, c'est aussi une salle d'écoute en continu, une scène ouverte, puis un spectacle à 19h, les chroniques du sexisme ordinaire avec Marine Pétroline. Il y aura aussi des stands de partenaires associatifs et puis une librairie. Et ça, c'est chouette, la possibilité de faire garder ses enfants avec le super collectif rennais La Bulle, dont les auditeurs ont peut-être déjà entendu un reportage dans cette émission d'information locale sur Canal B. Collectif qui est vraiment militant et qui est notamment présent sur tout un tas de mouvements sociaux pour permettre aux parents de continuer à militer. Tout ce qu'on a évoqué, c'est sur participation libre, et c'est le moment où vous me dites s'il y a des questions importantes que j'ai pas posées, des choses à ajouter.
Que vous dire de plus, il y aura une tombola, il y aura à manger, oui, et à boire, voilà. Voilà. Vous pouvez aussi venir juste pour jouer à gagner un lot et manger, oui, une crêpe.
Voilà, il y a d'autres surprises, d'autres partenaires cachés et qui soutiennent le festival et qui nous ont aidés, voilà, avec une petite ou grande contribution selon l'apport, mais on est ravis et c'est toujours une belle aventure, beaucoup de rencontres. Enfin, en fait, cette journée, moi, ce dont je me rappelle, Amy, pour clôturer, c'est l'énergie et le sourire qu'il y avait vraiment sur tout le monde. En fait, c'est vraiment une rencontre en direct. Tout le monde peut poser ses questions aussi pendant les conférences et autres. Et les ateliers sont en petits groupes restrictifs, donc on peut vraiment oser poser ses questions, parler de son vécu, de son expérience, de ses envies. Et c'est une belle énergie à la suite de cette journée et tout le monde est reboosté.
Tout ça, c'est à vivre le week-end prochain, samedi 16 septembre de 10h à 20h à l'Hôtel Pasteur à Rennes. Et je vous représente là tous, Hélène Allard, Charline Biro, Souchet, vous êtes dans l'équipe organisatrice de ce festival, Haut-Parleuse, un festival donc podcast et féminisme pour oser l'ouvrir et dont c'est la deuxième édition déjà. Et on trouvera tout un tas d'invités, dont vous, Cédric Rostin, avec le podcast Papatriarca. Il y aura aussi plein d'autres créateurs, journalistes, mais aussi artistes. Programme en ligne à retrouver sur hautparleuse.fr. Merci à tous.
Merci. Merci.
Métronomie et son morceau The Bay sur Canal B, un titre de l'album The English Riviera qui est sorti en 2011. C'était le troisième des sept albums du quatuor anglais mené par Joseph Mount. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, continue avec cette fois un reportage. Et pour le reportage du jour, je vous emmène découvrir alors un tout petit bout du festival photographique de la Gacilly, à la limite entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. On est à 45 minutes de Rennes en voiture. Créé en 2004, ce festival propose de découvrir plusieurs expositions, dont certaines monumentales, en plein air et gratuitement. Thème de l'édition 2023, c'est la 20e, la nature en héritage. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour découvrir ce festival. Pourquoi pas à travers une visite guidée. En septembre, ça se passe tous les dimanches à 14h et à 16h. Ça dure un petit peu plus d'une heure et le plein tarif, c'est 5 euros. Allez, visite. Et merci à Mélanie Sivadier de m'avoir laissé suivre son groupe.
Alors, bienvenue au Festival Photo Lagacilly. Moi, je suis médiatrice culturelle au sein du festival. Est-ce que certains d'entre vous sont peut-être déjà venus les autres années ?
Non.
Donc, on a des novices, on a de tout, c'est bien. Donc, je fais un petit récapitulatif pour démarrer. Donc, le Festival Photo Lagacilly, c'est un festival qui est organisé par une association Loi 1901. Il a lieu chaque année de juin à début octobre. Et en fait, chaque année, le festival change tout simplement toute sa programmation. Et effectivement, chaque année, l'idée, c'est d'avoir une thématique qui croise en fait un pays ou une région du monde avec effectivement une problématique environnementale ou sociétale. Là, l'idée, c'est que cette année, on est sur la 20e édition, donc c'est nos 20 ans. Et donc, on a voulu une thématique plus générale, donc la nature en héritage. C'est pour ça qu'on a énormément de photographies. Vous parlez de photographie plasticienne, documentaire, photographie de guerre, etc. Tous parlent de nature, mais avec un point de vue différent. Donc déjà, je vais vous présenter les trois photographies qu'on a effectivement en face de nous avant de démarrer en zone verte. David Doubilet, c'est un photographe américain né en 1946. On a ici trois grandes photographies. Donc c'est des photographies qui font en général entre 5 et 9 mètres. C'est un petit peu la patte du festival, si je puis dire. On a à chaque fois effectivement d'immenses photographies qui sont présentes. Et du coup, David Doubilet, comme vous pouvez le voir, c'est un photographe qui nous parle des fonds marins et particulièrement des espèces qui y sont présentes. Donc sur votre gauche, vous pouvez trouver effectivement un poisson clown. La photographie a été prise en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'était en 2011. Donc vous voyez effectivement un poisson clown qui est au sein d'une anémone. L'anémone, normalement, c'est une couleur à peu près rose, un petit peu corail, et que là, elle est blanche. Et donc en fait, c'est une des problématiques un petit peu, on va dire, des écosystèmes, problématiques environnementales qui est déjà assez présente. C'est qu'en fait, il fait tellement chaud avec le réchauffement climatique que les microalgues qui sont à l'intérieur des anémones ont tendance à s'amoindrir. Et effectivement, ça crée ces anémones qui sont avec une couleur qu'on ne leur connaît pas. Et c'est un petit peu sur ça que je veux vous emmener. C'est l'idée que David Doubilet, en fait, il nous propose à chaque fois des photographies qui sont assez oniriques, assez rêveuses. Enfin, quand on voit le poisson clown, on a l'impression, effectivement, d'être dans un petit voyage, mais il y a toujours une problématique environnementale et liée aux écosystèmes qui est ajoutée à ça. Donc David Doubilet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un artiste très connu, reconnu. Vous avez effectivement toute une série de photographies dans son exposition en remontant, et il a des photographies un petit peu plus crues. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont aventurés. Voilà, donc la photographie des dauphins, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une photographie qu'il a prise à Futo, donc au Japon. C'était dans les années 80 ou 90, et il a vu effectivement ces pêcheurs rabattre un petit peu les dauphins dans un coin, effectivement, dans un espace, et tout simplement, ils les ont tués au niveau du cou, et c'est pour ça qu'on a ce bain de sang, effectivement, dans lequel sont les dauphins. Et ce qu'il nous a confié, c'est que c'était la photographie la plus difficile qu'il ait eu à réaliser de sa vie. L'idée pour lui, ça va être vraiment de solliciter notre regard, mais aussi voilà, notre esprit en disant voilà, maintenant il faut faire quelque chose effectivement pour les écosystèmes, tenter de les préserver. Et effectivement, ça va être sa façon à lui d'en parler autour de lui, sachant qu'il a été publié maintes et maintes fois dans le National Geographic et plein d'autres magazines effectivement tout au long de sa carrière. On va passer en zone verte directement, je vous invite à me suivre. Donc effectivement, ici, on se trouve dans l'exposition de Vi Spears. Donc, Vi Spears, c'est une artiste franco-australienne qui est née en 1972. Et Vi Spears, elle a été, entre guillemets, reconnue par Karl Lagerfeld. Donc, ça vous donne déjà un petit peu une idée de son travail, effectivement. Donc, l'exposition s'intitule « Métamorphose ». Et en fait, on a quatre séries qui sont ici présentes. Donc la première, c'est celle que vous voyez effectivement sur les murs du Végétarium, effectivement en grand format. C'est la série Transcendance. Donc effectivement, je vous parlais de photographie plasticienne. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très visuel qui va effectivement être davantage mis en scène. Donc là, pour le coup, Vi Spears, effectivement, c'est déjà une photographe uniquement de studio. Si ce n'est effectivement sur le quadriptyque que vous avez au-dessus de nous, parce qu'effectivement, on a des photographies du ciel et des nuages, et celle-ci, effectivement, elle a été réalisée réellement. Et on a à côté de ça deux personnages qui vont être présents. Donc si vous observez bien ces personnages, on ne voit pas leur visage. Donc la jeune femme effectivement va tourner la tête, le jeune homme va avoir dans ses bras comme une boule en verre un petit peu, et si vous êtes bien attentif, vous verrez effectivement des éléments de la faune et la flore qui sont présents effectivement. Donc là, l'idée dans cette série donc, qui s'intitule Transcendance, pour Vi Spears, ça a été vraiment de parler de l'élévation spirituelle. Quand vous voyez cet homme, effectivement, qui a dans ses bras un globe qui berce, aux yeux de Vi Spears, parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle nous a raconté quand on l'a rencontré début juin, ça va être l'idée, effectivement, de bercer le globe, donc bercer un petit peu la planète, si je puis dire. La femme à côté, effectivement, ça va être une représentation pour elle de Gaïa, c'est ce qu'elle a voulu, effectivement, introduire. Et si vous êtes bien vigilant, vous voyez, effectivement, que les corps sont assez sculptés, c'est des corps assez jeunes. On va avoir, effectivement, des drapés qui vont être présents au niveau des tenues de ces personnages, des tons rouges, donc des tons effectivement assez puissants. Et l'idée pour elle, ça va être vraiment d'évoquer des déesses et des dieux, en fait, pour parler effectivement de cette spiritualité. Et vous pouvez reconnaître un petit peu dans ses portraits la peinture de l'école flamande, de l'école du Nord, effectivement, qui peut rejaillir. Donc c'est pas forcément évident de faire le lien tout de suite, donc c'est pour ça que c'est important d'expliciter effectivement son travail. Et effectivement, Vi Spears, son idée, et c'est là tout son travail, elle ne veut pas parler effectivement des personnes en tant que, qu'individu, elle va plutôt avoir envie de parler de symboles. Alors du coup, je vais faire un petit aparté avant de vous présenter cette série. Effectivement, un des messieurs présents m'a posé une question qui est très intéressante et très pertinente. Il m'a demandé tout simplement que devenaient les photographies une fois que le festival était fini. Peu d'entre vous sont au courant, mais en fait, il y a une édition bis du Festival Photo Lagacy. Et en fait, il se déroule à Baden, en Autriche. Donc effectivement, déjà, toutes les photographies partent en itinérance à Baden une fois effectivement que le festival ferme ses portes. Et en fait, nos artistes vont tout simplement, au moment où ils signent le contrat, avoir des clauses. Ils vont avoir trois solutions. Soit tout simplement, ils vont récupérer leurs photographies. Soit ils vont laisser les photographies au Festival Photo Lagacy. Et nous, on a un entrepôt qui est situé à Sixt-sur-Raff. Donc, c'est pas très très loin, à 15-20 minutes. Et en fait, on les stocke et on peut les proposer à nouveau en itinérance. Ou la troisième possibilité, c'est que les photographies soient détruites. Et ça, effectivement, c'est le choix de l'artiste qui peut, par exemple, vouloir avoir un droit plein sur son œuvre. Voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 20 photographes cette année, on en a 3 qui ont demandé une destruction uniquement. Donc on est plutôt satisfait parce que on n'aime pas trop quand même qu'il y ait une destruction en termes d'écologie, développement durable, etc. C'est pas l'idéal, on va dire. On va pouvoir passer du coup à la deuxième exposition. Je vais vous inviter à me suivre du coup. Alors ici, on se trouve dans l'exposition de Cassio Vasconcelos. Donc Cassio Vasconcelos, on a une seule œuvre de lui, mais quelle œuvre, effectivement, elle est gigantesque. Donc Cassio Vasconcelos, c'est un artiste brésilien, né en 1962. Voilà, et effectivement, Cassio Vasconcelos, donc, il nous présente cette œuvre qui s'intitule Over. Donc Over, ça va être tout simplement pour le terme excès. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous inspire, effectivement? La guerre?
Post-apocalyptique,
ouais, c'est une bonne définition, effectivement.
Décharge,
effectivement. Donc, Cassio Vasconcelos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans des déchetteries, tout simplement, à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, également aux États-Unis. Et en fait, il a pris des photographies des vues aériennes de ces lieux. Cassio Vasconcelos, il est photojournaliste. Donc, en fait, c'est vrai qu'il aurait pu se rendre, effectivement, dans ces décharges et prendre des séries de photographies, en fait, finalement. Mais il a souhaité prendre ses photographies et après en faire quelque chose de différent. En fait, effectivement, Cassio s'est rendu dans ces endroits. Il était effectivement dans un hélicoptère avec un pilote qui conduisait, etc. Et il a pris effectivement ses photographies en vue aérienne. Mais il ne s'est pas tout simplement arrêté là. C'est-à-dire que quand il est rentré chez lui, il a utilisé un logiciel de photomontage et il a décidé de détourer, donc de découper effectivement des parties de ses photographies. Et je précise même des moyens de transport, de la moindre petite voiture à l'avion, effectivement, il a tout découpé sur son logiciel numérique. Il a mis en d'abord un fond marron et en fait, il a été positionné chaque élément à un endroit précis. Il a tout mis à la même échelle. Et quand on se rapproche, on a cette impression un petit peu de relief qui va apparaître. Et c'est lié effectivement aux ombres qu'il a rajoutées. Donc son travail, ça lui a pris 800 heures, nous a-t-il dit, sur 2 ans. Donc vous imaginez un petit peu effectivement le travail méticuleux que c'est. Et Cassio Vasconcelos, pour ceux qui sont intéressés par son travail, c'est sa façon de fonctionner, il fait plein d'œuvres comme ça. Donc on a effectivement des avions, on a des bulldozers, des voitures, des camions, on a des bateaux, on a le Black Bird que moi je ne connaissais pas, cet avion noir militaire qui est situé de ce côté-là. Et effectivement, son questionnement, ça va vraiment être de nous dire bah, qu'est-ce qu'on fait de tous ces outils une fois qu'on n'en a plus besoin, une fois qu'ils sont abîmés, cassés, une fois qu'ils sont tout simplement plus aux normes, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc c'était un petit peu pour nous alerter aussi en nous disant, bah voilà, si demain on a effectivement cet endroit sur la Terre, ça va être assez dramatique. Donc bah, si vous voulez effectivement, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce matin, mais tout simplement, allez la voir.
It's very emotional, and firefighters typically keep it in. And eventually it comes out. PTSD and everything that's going on in the department right now, it's higher than it's ever been.
Donc effectivement, ici, on est au sein de l'exposition de Maxime Richer. C'est un artiste photographe français qui vit et travaille actuellement à Paris. Maxime Richer, il est effectivement très concerné par les questions environnementales et notamment la question des limites des ressources naturelles effectivement de la planète. Donc il a fondé notamment Climate Heroes, qui est une plateforme numérique où il y a plein de reportages qui sont mis en ligne aux quatre coins du monde et effectivement qui nous parlent des différentes problématiques de chaque région. Donc Maxime Richer, lui, il a voulu se rendre en Californie pour nous parler des méga-feux qui ont eu lieu. Donc le premier a eu lieu le 8 novembre 2018 et le second a eu lieu le 14 juillet 2021. Donc quand je parle de méga-feux, c'est des feux qui s'étendent sur des milliers et des milliers de kilomètres. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le premier qui s'appelle Camp Fire, il a dévasté 620 km² de forêt. Et il y a eu 90 personnes qui sont décédées ou disparues. Voilà. Le deuxième, donc le Dixie Fire, c'est 390 000 kilomètres également qui ont effectivement disparu à ce moment-là. Et c'était le feu le plus long qu'il y a eu, il a duré 3 mois et demi. Maxime Richer, il a une écriture très singulière, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre des photographies des feux. Il n'y a que 2 photographies où on aperçoit quelques flammes. En fait, son idée, c'était vraiment d'aller davantage à la rencontre des habitants pour comprendre comment ces personnes qui vivent un méga-feu, donc un traumatisme, en 2018 et vivent à nouveau un méga-feu en 2021, comment ces personnes peuvent effectivement continuer à évoluer dans la ville de Paradise. Il y a ceux qui, effectivement, sont très attachés à la ville de Paradise et qui vont vouloir y rester. Et on a les personnes qui ont été complètement traumatisées par ces feux parce qu'ils ont perdu des proches, parce qu'ils ont été encerclés dans les flammes. Donc là, vous pouvez voir effectivement quelques photographies de paysages. Donc les photographies dont je vais vous parler, c'est principalement celles qui ont des teintes beaucoup plus contrastées, donc qui ont des teintes effectivement jaunes et un peu voilà, orangées. Donc ces photographies, en fait, Maxime Richer, il n'a pas utilisé de photomontage, de choses comme ça. En fait, tout simplement, il a positionné un filtre rouge sur son objectif. Et en fait, ça a permis de renforcer les couleurs qui étaient déjà présentes. Et son idée, c'était vraiment de faire ressortir et qu'on ait cette sensation d'embrasement et un petit peu de monde un peu apocalyptique sans qu'on voie les flammes pour autant. Voilà. Je vous invite pour les personnes, effectivement, qui habitent dans le coin, si vous souhaitez revenir sur une autre visite, on ne fait pas toujours les mêmes zones, ce que j'expliquais. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour avoir d'autres informations. Et puis, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une bonne visite.
Merci beaucoup.
Au revoir. Ashes on the fire. Thank you.
mais amor pra mim também. Vem dançar comigo, vem. Esse dia já não tem mais amor pra mim também. Nossa história vai além. Só contigo e mais ninguém. Mais amor pra ti também. Mais amor pra ti também. Comigo vem, esse dia já não tem mais amor pra mim também. Nossa história vai além, só contigo e mais ninguém. Mais amor pra ti também. Mais amor pra ti também.
Amor par Moria Plaza sur Canal B, que vous écoutez sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr, site internet où vous pouvez également retrouver les podcasts de l'ensemble des émissions salariées mais aussi bénévoles. À l'instant donc, c'était une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, un titre sorti le 7 juillet et à retrouver sur un album éponyme sorti chez Batov Records. Il s'agit du premier disque de Moria Plaza, une formation entre Berlin et la mer morte, des mordus de soul brésilienne mais aussi de musique psyché, bossa et jazz. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'info locale de Canal B qui est toujours ouverte à vos suggestions de sujets à explorer, et si vous avez un événement ou une action à annoncer, que ce soit avec votre association, collectif ou autre type de structure, tant que le but n'est pas purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et c'est l'heure de terminer cette émission, la première de la semaine, avec la recommandation du jour, souvent des conseils d'événements à vivre à Rennes ou dans sa région, parfois de choses à voir ou à écouter. Aujourd'hui, un point lecture. Il s'agit de la ville de Rennes et de la métropole qui en fait ont fusionné leurs magazines d'information. Depuis le 4 septembre, les métropolitains reçoivent donc leur journal, un 36 pages dans une nouvelle version, complété pour les Rennais d'un supplément de 16 pages sur l'actualité locale de leur ville. Ce journal 2 en 1 vient remplacer les Rennais et Rennes Métropole Magazine qui paraissaient auparavant en alternance un mois sur deux. Alors je trouve que les sujets abordés restent sensiblement les mêmes, on est dans la même couleur. Il y a toujours beaucoup de photographies, d'illustrations. Il y a quand même un nouvel agenda, très lisible. Et puis l'apparence et le mode de conception qui ont beaucoup changé. Ce magazine est désormais éco-conçu avec une impression à froid, sans séchage et puis du papier journal recyclé qui nous vient de Grande-Bretagne. On nous promet à la fois une baisse des coûts de production et de la consommation d'énergie. Et puis pour l'impression, ça se passe pas loin, à quelques kilomètres seulement de Rennes, au siège du groupe de presse Ouest France. Objectif, encore une fois, réduire la pollution liée au transport. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.